Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde au féminin. Féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
La criminalité s'aggrave encore en Afrique du Sud, avec 76 meurtres et 126 viols par jour au dernier trimestre 2021. Un chiffre en hausse de près de 10% pour les meurtres et de plus de 18% pour les viols par rapport à l'année précédente. Le pays compte 37 homicides pour 100 000 habitants contre 7 en moyenne dans le monde. Sur les trois derniers mois de l'année, la police a enregistré 6859 meurtres, dont 902 femmes et 352 enfants, soit près de 700 meurtres de plus qu'au trimestre précédent. Le nombre de viols s'est établi à 11315 cas contre 9556, soit un viol déclaré toutes les 12 minutes. 90 000 policiers ont reçu une formation pour mieux accueillir les victimes. Le 21 février 2022, la Fédération américaine de football s'est engagée à payer l'équipe nationale féminine au même niveau que celle des hommes, dans un accord avec un groupe de joueuses, dont Megan Rapinoe. 28 joueuses championnes du monde en 2019 en France avaient déposé un recours collectif contre la fédération. L'accord met fin aux poursuites et porte sur un total de 24 millions de dollars, dont 22 millions distribués selon un mode proposé par les joueuses. En septembre, la présidente de la fédération, Cindy Parlocone, avait dit espérer harmoniser les primes liées à la Coupe du Monde. La cinéaste espagnole Carla Simón, en décrochant l'Ours d'or à la Berlinale le 16 février pour son film Alcaraz, est devenue la troisième jeune réalisatrice d'affilée à être sacrée par un grand festival, après les Françaises Julia Ducournau, Palme d'or à Cannes pour Titane, et Audrey Diwan, Lion d'or à Venise pour L'Événement. Si on y ajoute le triomphe aux Oscars 2021 de l'américaine Chloé Zhao, ces prix témoignent d'une volonté d'équilibre au sein de l'industrie du cinéma dominée par les hommes. Le film Alcaraz met la lumière sur le devenir des paysans bousculés par la modernité. Les acteurs sont des non-professionnels recrutés dans les environs. Carla Simón a dédié sa récompense aux petites familles d'agriculteurs dans le monde. Au Nigeria, des femmes victimes d'agressions sexuelles tentent de briser le silence grâce à une émission de radio. Le programme met en lumière les cas de violences basées sur le genre et veut faire tomber les barrières culturelles conservatrices. Découvrons cette émission phare dans un reportage de Timothée Obiezu à Jos. Le récit est de Jacques Aristide.
Fatima n'est pas son vrai nom. Le visage caché, elle témoigne sous le couvert de l'anonymat. Fatima dit qu'elle a été violée. C'était en avril 2020. Elle rentrait chez elle après la prière du soir quand elle a été assaillie et agressée par deux hommes armés.
They had
Ils avaient un pistolet pointé à ma tête et un couteau à ma gorge pour me forcer à entrer dans un bâtiment. Ils m'ont violée et ils le faisaient à tour de rôle, tout en me poignardant pendant l'acte.
Les violeurs menacent de la tuer si elle en parle. Tétanisée par la peur, Fatima demeure muette en effet. Un jeudi soir toutefois, elle tombe sur une émission de radio où des victimes de violences sexuelles et sexistes viennent raconter leurs cauchemars. C'est un programme très écouté dans l'État nigérian du plateau de Jos. Fatima décide finalement de rompre le silence.
J'ai besoin de votre aide pour faire avancer l'affaire.
L'émission s'intitule Silent Voices, diffusée par la radio locale JFM. Elle est animée par Nanji Nandang. Le programme, dit-elle, atteint environ 100 000 auditeurs chaque semaine.
When they are telling me their problem, they feel like this is a safe space.
Quand elles me font part de ce qu'elles ont subi, elles donnent l'impression que cette émission est un espace sûr pour elles. Parfois, je ne peux pas cacher mes émotions. Des fois, je reste figée, car vous vous demandez si ce sont bien des êtres humains qui commettent de telles horreurs. Ils se comportent comme des monstres et c'est très perturbant.
Nandi Nandang a le soutien de la Fédération internationale des femmes juristes. L'organisation à but non lucratif offre des consultations gratuites aux victimes qui interviennent dans l'émission. Pour Mary Izam de cette ONG, il n'est pas facile d'obtenir justice.
Il y a tellement de goulots d'étranglement, lesquels font traîner les choses. Mais notre participation nous apporte beaucoup de percées. Il y a des cas qui sont signalés à la police, mais qui ne reçoivent pas l'attention nécessaire. Mais dès que les gens font appel à nous, ou dès que nous passons à l'antenne, la police accélère le processus.
Partagez avec moi, racontez-moi le problème de violence sexuelle et sexiste que vous avez subi.
Bien que les violeurs de Fatima n'aient pas encore été condamnés, la Fédération internationale des femmes juristes dit suivre l'affaire. Quant au programme Silent Voices, il continue de donner la parole aux victimes.
L'industrie du vêtement est considérée comme un domaine avec des consommations excessives. Cela pourrait changer si la loi de New York, dénommée « Loi sur la durabilité et la responsabilité sociale de la mode », est appliquée. Nina Vishneva a rencontré une jeune styliste qui crée des vêtements insolites avec des produits recyclés et peut vous confectionner une veste à partir de chaussures. Le récit est de Blanche Sanou.
Elle est si douée pour donner aux vêtements une deuxième et une troisième vie qu'il n'est pas étonnant que Nicole McCollin ait été surnommée la sorcière du recyclage.
Cette veste est faite avec des chaussures usagées d'un magasin. C'est très dur, c'est comme une armure.
McCollin a rejoint le domaine de la mode du développement durable après avoir travaillé comme graphiste dans une grande entreprise de chaussures. Elle a vu tout ce qui était jeté, d'énormes quantités de tissus, de boutons et de fermetures, des milliers et des milliers de modèles d'essai. Ainsi, McCollin a commencé à sauver tout ce qu'elle pouvait et à transformer les pièces récupérées. Elle a été tellement captivée par le processus qu'elle a décidé de se consacrer entièrement à la mode durable.
La mode durable a toujours été envieuse, c'est très peu connu. Si vous ne mettez pas votre argent dans votre environnement et que vous n'investissez pas dans l'avenir, ces marques ne pourront pas durer.
Bientôt, l'industrie de la mode pourrait être contrainte à revoir la durabilité une fois que la nouvelle loi Fashion Act entrera en vigueur à New York. Introduite au Parlement régional de l'État cette année, la mesure obligerait les détaillants et les fabricants de mode à être responsables de leurs pratiques en matière de durabilité. Ils auraient besoin d'offrir des conditions de travail transparentes et publiques, quel que soit le lieu de production. La Fashion Act s'appliquera aux grandes marques avec des ventes de plus de 100 millions de dollars qui font des affaires dans l'État de New York. Les contrevenants pourraient être condamnés à une amende pouvant aller jusqu'à 2% de leurs revenus annuels et la liste des contrevenants sera publiée par le bureau du procureur général de New York. De nombreux créateurs soutiennent l'initiative, dont Stella McCartney. Adja Robinson est la responsable des ventes de la boutique Stella McCartney.
Ça a été un miracle, pour vous dire la vérité. Pouvoir réellement obtenir une peau non animale, mais faite d'un légume, d'un champignon, quelque chose de la terre, quelque chose de naturel, c'est important.
Le programme des Nations Unies pour l'environnement affirme que l'industrie de la mode est responsable de 10% des émissions mondiales de carbone. En plus de cela, selon l'Association des matériaux secondaires et des textiles recyclés, presque tous les vêtements et textiles d'occasion pourraient être recyclés et réutilisés. Pourtant, 80% finissent dans des décharges. Pour Nicole McCollin, cela doit cesser.
Il est vraiment important de pouvoir penser à votre enfance et à votre passé et de vous en servir comme référence. Il y a beaucoup de déchets et je pense que c'est quelque chose que je considérerais comme un trésor.
Un trésor et un cadeau aux efforts pour ralentir le changement climatique. Ce qui n'est pas encore clair, c'est quel effet la loi sur la durabilité aura sur le prix des vêtements si elle est promulguée.
Si vous êtes un peu frustré de ne pas avoir vu la collection de Nicole McCollin, rendez-vous sur voaafrique.com pour voir ce reportage vidéo.
Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi. À travers le regard des femmes et des jeunes.
La golfeuse australienne Anna Green est devenue le 20 février la première femme à remporter un tournoi mixte professionnel à 25 ans, le TPS Murray River en Australie. Elle a entamé le dernier tour à égalité avec Andrew Evans, Matthew Millar et Blake Collier. En rendant une carte de 66, elle a fait mieux que ses rivaux masculins et terminé sur une victoire en 4 tours à 20 coups sous le par du Cobram Baroga. Les golfeuses ont déjà auparavant remporté des événements professionnels. Professionnelle mixte sur 1 et 2 tours, mais Green, qui a remporté 8 tournois professionnels, est la première femme à décrocher un tournoi de 4 tours sur une grande tournée mondiale.
Si je ne pouvais.
En Côte d'Ivoire, beaucoup de jeunes diplômés ont des difficultés à trouver du travail. Malgré les efforts du gouvernement, Delphine Bowies, notre correspondante à Abidjan, a tendu son micro à certains de ces jeunes à la recherche d'un emploi.
Insertion socio-professionnelle des jeunes. Ce n'est pas facile pour tout le monde de trouver un travail rémunérateur. Le gouvernement ivoirien fait des efforts, mais la demande d'emploi est toujours supérieure à l'offre. Certains jeunes diplômés sans emploi partagent leur lot quotidien. Cette jeune fille, assise devant son étal, non loin de l'arrêt d'un bus, au quartier Marcoc.
Je me nomme Demandé Aminanta. Ça fait 5 ans que j'ai eu un master en droit. Vu que je ne fais rien, actuellement, je vends des attiqués. J'ai tenté des concours et jusque-là, j'ai pas encore eu de boulot.
Un autre jeune homme est gérant de cabine au quartier Lavage.
Je m'appelle Hervé Koufi. J'ai fait transfert d'unité. J'étais étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'ai fait géographie, mais depuis que j'ai fini ma licence là, on tente le concours, ça ne marche pas. Donc, on est obligé de se défendre dans les petites activités là pour gagner quelque chose.
Avec un BTS en ressources humaines dans la poche, une autre jeune fille exerce une activité réservé jadis aux hommes.
Je suis Adiara Kone. Je suis vigile. On n'a pas eu la chance de s'insérer dans la société. On est obligé de venir se débrouiller quelque part.
Elle fait ce métier depuis 3 ans, mais ne désespère pas. Elle continue de chercher du travail.
J'ai passé des concours qui, à chaque fois, ne marchent pas. Donc, ça décourage au fait.
Pour tous ces jeunes, consacrer plusieurs années à étudier, terminer avec son diplôme en poche et ne pas trouver du travail, pas facile à vivre.
Juste pour à mes besoins. Franchement, c'est pas facile. J'ai décidé de me lancer quelque part, au moins ça me rapporte quelque chose.
Sinon, ça me fait mal parce que c'est pas mon rêve. Mais à défaut, on se contente de ce qu'on a d'abord.
Par ailleurs, le gouvernement ivoirien fait des efforts pour la réinsertion socio-professionnelle des jeunes à travers l'agence Emploi Jeunes et le partenariat avec des structures privées. Un programme de formation réinsertion, Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle.
Aujourd'hui, il y a une seconde convention qui permettra le recrutement de 200 jeunes. J'ai vu des étudiants qui ont eu des formations de base dans des écoles, grandes écoles ou universités, mais qui ne leur permettaient pas d'avoir du travail et qui ont pu bénéficier du programme de formation complémentaire. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une autre formation, autre que leur formation de base, qui a permis une reconversion et ces jeunes travaillent aujourd'hui.
Le ministre a indiqué que le taux d'insertion au niveau de l'apprentissage en Côte d'Ivoire est de 67,5%. Delphine Bowies, Abidjan, VOA Afrique.
Au Gabon, l'auto-emploi a un nouveau visage dans les rues de Libreville où d'anciens délinquants se sont reconvertis en surveillants de parking automobile. En contrepartie de leur offre de service, ils perçoivent des usagers quelques pièces d'argent. Notre correspondant Ismaël Obiangze a approché ce groupe de jeunes en ville.
J'ai beaucoup dormi dans la rue. Je suis venu dans la rue, j'avais pratiquement 17 ans. Aujourd'hui j'ai 37 ans. J'ai fait la prison.
Éric Indoum, serval de son petit nom, se relève d'un passé peu glorieux qui l'obligeait à voler pour subvenir à ses besoins. Mais depuis près de 10 ans, il est à la tête d'une organisation informelle de régulateurs de véhicules sur les grandes artères de Libreville.
Avec mes potes, c'est quoi? On a instauré un système du genre, hein? Chacun son tour de parquer le véhicule. Et maintenant, s'il y a un espace, celui-là qui veut, n'est-ce pas, merder, on le parle une, deux fois avant d'appeler la police, on te bastonne d'abord avec les mains. Ah, c'est la rue, c'est la street.
Dans la rue, ces enfants ont en effet tout expérimenté. Bataille rangée et vol à l'arraché avant cette reconversion inespérée. Roy Maganga, devenu gardien de parking, invite d'autres jeunes à travailler.
Ils doivent travailler, ça ne sert à rien de braquer. Parce que imaginons que tu braques ta mère, ou bien on braque ta mère, t'aimes que tu es braqueur, tu vas faire comment?
Les difficultés traversées ont servi de leçon à tout un chacun. Lilian Essono veut ouvrir une nouvelle page de sa vie.
On a des enfants aujourd'hui. On a des charges, donc du coup, on est obligé d'être là. Ces gens de bonne foi qui nous payent ici. Ce n'est pas tous qui sont censés garer ici qui nous payent. Il y a d'autres qui disent qu'ils paient des taxes. On n'oblige à personne de nous payer.
Pas loin de là, Jean de Dieu Anguillé vient d'empocher 500 francs CFA après avoir aidé un automobiliste à se garer en face du commissariat central de Libreville.
Par jour, tu peux rentrer, tu rentres avec 2000. Comme par jour, tu peux entrer avec 15 000. Une personne de bonne foi peut te remettre 5 000 comme un coca.
L'offre de service de ces jeunes débrouillards séduit et rassure les usagers du secteur administratif de la capitale.
À force de garer à certains endroits, on connaît les jeunes qui sont réguliers à cet endroit-là. Et puis, on s'entend très bien, donc c'est plutôt rassurant.
Ils viennent un peu comme un appui au travail qui avait déjà été, ou du moins qui est en train d'être mené par les forces de police nationales. Mais je crois que, avec ce qu'ils font aujourd'hui, il y a une fluidité au niveau de la circulation. Et les véhicules sont bien gardés, on retrouve les objets. Il y en a qui retrouvent leur téléphone portable à l'intérieur de leur véhicule, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années.
La délinquance urbaine n'a certes pas cessé à Libreville, mais la surveillance quasi permanente des véhicules par ces jeunes permet de limiter les braquages et les vols à l'arraché sur les artères de la capitale gabonaise. Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
Entre parenthèses.
Koweït, les femmes récemment acceptées dans les forces armées devront se soumettre à certaines restrictions si elles veulent devenir militaires. En octobre 2021, l'armée a autorisé que les Koweïtiennes rejoignent ses rangs. Suite à la contestation du député conservateur Hamdan Al-Azmi qui a évoqué une inadéquation morphologique des femmes aux activités militaires, les autorités islamiques ont émis une fatwa exigeant qu'elles ne portent pas d'armes, qu'elles obtiennent la permission d'un tuteur masculin pour intégrer l'institution et soient voilées alors que le voile n'est pas obligatoire au Koweït. Le ministère de la Défense a suivi cette fatwa et imposé ses règles fin janvier.
Mano, voy a ir a llevar. Una neta.
Retour en Côte d'Ivoire où les pluies ont été abondantes dans le sud du pays en février, une période supposée être sèche, ce qui perturbe les producteurs agricoles. Plus de précisions avec Delphine Bowies qui a rencontré une responsable de coopérative et des jeunes producteurs concernés par le changement climatique.
De fortes pluies en ce mois de février, surtout à Abidjan et sur toute la partie sud de la Côte d'Ivoire, en pleine période des saisons sèches. Ce n'est pas un fait courant, ces perturbations climatiques enregistrées depuis quelques semaines. Réaction de Germaine Kouassi, présidente de coopérative.
Partout on parle de changement climatique, de réchauffement de la terre, peut-être que c'est ces effets que nous vivons ici. C'est à nous d'adapter notre comportement à ce nouveau climat.
Philippe Kanza, planteur de produits maraîchers.
Les produits, c'est-à-dire la tomate, les oignons, les aubergines, tout ça, là, c'est grâce à la pluie que ça produit. Et nous aussi, on arrive à manger à notre faim.
Mais les pluies en février, supposées être une saison de sécheresse, ça force tous les calculs.
Nous, les planteurs, producteurs de cacao, on ne comprend plus rien. C'est dans cette période-là qu'on doit vraiment travailler sur notre cacao, on doit sécher. Là, on pouvait facilement faire les travaux champêtres, mais avec vraiment la pluie là. Même j'ai des camarades planteurs qui sont dans les autres localités aussi se plaignent. Hein.
La pluie et ses effets néfastes tels que les inondations, des dégâts moindres cette fois-ci. Mais ce jeune parent habite dans une maison de fortune au quartier d'Oku Extension. Il a vu son salon envahi par l'eau.
Il y a eu des dégâts à la télévision, les fruits scolaires de mes enfants, tout a été inondé par l'eau.
Youssouf Kone, chef de communauté, habite non loin du zoo d'Abidjan, dans le quartier de William Civil.
Ceux qui habitent dans les zones à risque, ils doivent prendre les dispositions pour ne pas que cette pluie-là vienne les surprendre.
Ces pluies en saison sèche, est-ce un phénomène normal? Le climatologue Daouda Konaté, directeur de la météorologie nationale.
Nous sommes en train de passer de la saison sèche vers la saison pluvieuse. Donc la transition entraîne souvent des orages et des fortes pluies au mois de février, qui est à peu près le mois qui fait la jonction entre ces deux grandes saisons-là. Donc, ce qui explique ces quantités de pluies et ces orages que nous observons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des pluies qui concernent uniquement la partie sud du pays et non la partie nord. La partie nord est encore sous l'influence de l'Harmattan.
Et ce n'est pas un fait nouveau.
Il faut rappeler que c'est une situation connue hein, depuis quelques années. Depuis 2011, en 2002 et après 2007, c'est un effet aussi des changements climatiques. Les changements climatiques impactent sur l'intensité et la multiplication de ces quantités de pluie-là.
Delphine Bowies, Abidjan, VOA, Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.